Gloire à Dieu, nous nous retrouvons une fois de plus pour parler du Seigneur, notre Dieu, notre libérateur, et écouter ses instructions. Nous en sommes à étudier le livre d'Esdras, et on va attaquer le chapitre 4 d'Esdras. Esdras qui était un prêtre à l'époque de la déportation des enfants d'Israël dans plusieurs régions. Et il fait partie des gens qui ont été les grands acteurs de la reconstruction d'Israël en tant que nation de Dieu. Donc revenir sur le pays, reconstruire le temple, reconstruire les murailles. Ça, c'est l'époque d'Esdras. Donc, c'est comme si spirituellement, c'est lui qui a tenu la nation pendant cette époque-là. Et on pense que c'est lui qui a écrit les livres des chroniques de Néhémie et puis d'Esdras. Voilà. Donc, il y a un premier lot de retour après l'édit de Cyrus, le Cyrus qui était l'empereur ou bien le grand roi de l'époque qui avait colonisé plusieurs pays, il décrète que les Juifs peuvent retourner chez eux pour reconstruire la maison de leur Dieu. Et il leur facilite la tâche. Et les Juifs retournent chez eux, mais définir bien les choses. Donc, ils ont commencé par faire le tri pour savoir qui était vrai juif, qui était une pièce rapportée, qui était vrai sacrificateur et qui n'était que juif simple. Parce que pour être sacrificateur, il faut être descendant d'Aaron. Voilà, donc, ils ont fait le tri, la liste, et nous voyons bien cette liste dans le livre de chroniques. Hein, le livre de chroniques est encore beaucoup plus pointu sur cela. Voilà, donc on voit qu'il y a eu un travail colossal qui a été effectué pour connaître qui est qui. Et on retrouve ce travail aussi dans le début de ce livre d'Esdras. Et il y a eu quelques personnes qui ont été détectées comme n'étant pas à leur place, soit de sacrificateurs, soit de juifs simples, voilà, d'israélites simples. Donc et nous, on avait comparé, on avait dit que pour nous, l'Église, c'est le réveil. C'est pareil, le réveil c'est la même chose que ce retour des enfants d'Israël sur leur terre. Pour nous, le réveil nous ramène à chaque fois à la vie de la première église dans les Actes des Apôtres. C'est ça notre Jérusalem, la vie des Actes des Apôtres, c'est ça notre Jérusalem, c'est ça notre temple. Voilà, donc vivre comme la première église, comme nous l'avions dit, Dieu quand il commence les choses, il commence toujours par la perfection. Donc, quand il fait une chose, elle est parfaite dès le départ. Et c'est le péché et les humains qui ont l'habitude d'altérer la chose. Et il envoie l'Esprit Saint, il envoie le réveil pour nous ramener toujours au début. Et c'est ce qui se passe avec l'Église. À chaque fois, Dieu suscite des réveils pour ramener son peuple à la vie normale de l'Église, qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres et dans certaines épîtres. Voilà. Déjà, même les épîtres en elles-mêmes sont de rappel. Les épîtres sont comme des paroles de prophètes pour amener le peuple, l'Église, à la vie normale que Dieu voudrait. Et nous avions dit que pour nous, le retour à la normale suppose qu'on définisse bien les choses aussi. C'est quoi être un chrétien ? Qui est Dieu? Quelle est la vie normale d'un chrétien? Donc tout ça, nous en avons parlé la fois passée, pour définir ça, parce que comme ça, on sait là où on va. On sait ce qu'on appelle réveil. Donc on ne doit pas penser que réveil veut dire beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Ce n'est pas ça. C'est un retour à la vie de sainteté, c'est un retour à la considération du péché comme étant quelque chose de grave et qui a fait que Jésus est parti à la croix. Donc c'est le retour à chercher à ressembler à Dieu, pas à faire du succès. Donc tout ça doit être bien défini. Et avant qu'on continue le chapitre 4, je voudrais rajouter une autre définition du chrétien. Le chrétien, puisqu'on veut le retour à la normale, donc chacun doit savoir c'est quoi un chrétien, qui il est en tant que chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a rencontré personnellement le Seigneur. Quand on dit personnellement, ce n'est pas forcément physiquement, mais qui a eu affaire au Seigneur face à face, d'une manière personnelle, pas dans un effet de groupe. Parce qu'on peut devenir chrétien par effet de groupe, par suivisme, parce que la famille est dedans, toi aussi tu es aussi chrétien. Non, il faut qu'il y ait eu un rapport personnel avec Jésus, où tu dis à Jésus, je deviens ton disciple, je choisis de mourir avec toi et de ressusciter avec toi. C'est ça le baptême, c'est ça le chrétien. Je veux maintenant te servir. C'est ça le christianisme. Et beaucoup au milieu de nous, dans les églises, ne sont pas chrétiens dans le sens où ils n'ont pas eu un rapport personnel avec le Seigneur. Mais eux, ils ne savent pas. C'est pourquoi on leur dit, c'est pourquoi il faut redéfinir les choses. C'est comme quand eux, ils retournaient en Israël, ils ont eu à redéfinir, à faire des généalogies pour savoir qui est qui. Parce que certains étaient au milieu d'eux sans savoir qu'ils n'étaient pas juifs. Donc, ils ont eu à faire cet éclairage-là, ces éclaircissements-là. Ils ont eu à faire. Donc, on doit le faire. Si nous voulons le réveil, on doit redéfinir les choses clairement telles qu'elles sont dans la Bible. Un chrétien doit avoir un rapport personnel. Ce n'est pas un rapport d'église. Le danger de tout ça, c'est quoi? C'est que quand un chrétien n'a pas un rapport personnel avec le Seigneur, il va chercher dans l'église, dans les frères et sœurs, dans sa famille, ce que normalement seul le Seigneur doit lui donner. Et ça, c'est ça la source des problèmes dans les églises. Quelqu'un qui est dans l'église, ce que le Seigneur doit lui donner, la paix, l'assurance, il cherche ça dans l'église. La perfection qu'il doit avoir dans le Seigneur, il cherche cette perfection dans chaque chrétien de l'église. Donc, la personne n'a pas encore compris. Donc, pour la personne, c'est l'église qui est son salut, c'est l'église qui est le pont avec Dieu. Non, c'est Jésus qui est ce pont-là. C'est Jésus qui est le salut, c'est Jésus qui est la personne parfaite. Et malheureusement, comme la personne n'a pas eu un rapport avec Jésus, il cherche une perfection selon lui dans l'Église, dans les chrétiens, et c'est souvent source de beaucoup de problèmes. Et parce que ce genre de chrétiens finissent même pas par regarder à eux-mêmes. Eux, ils se comportent comme des clients qui viennent pour être satisfaits par une Église. Au lieu de regarder aussi à eux-mêmes dans leur relation avec le Seigneur. Quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, mais je quitte mon église puisque le pasteur a manifesté un acte de jalousie, une expression de jalousie par rapport à un de ses collaborateurs. On a été choqués par ça. Du coup, je quitte. Moi, j'ai dit non. Même si tu ne vois pas comment tu peux continuer dans cet endroit-là avec un pasteur jaloux, mais ce n'est pas comme si ce pasteur a dit qu'il devenait homosexuel ou bien qu'il signait un contrat avec le diable. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas un homme parfait, même si tu trouves que ce genre de fait se répète ou il manifeste une certaine jalousie ou un certain parti pris. C'est décider comme ça, à partir d'une expression de jalousie, de quitter, ça veut dire en quelque sorte que tu es maître de ta vie chrétienne. Or, si tu as signé un contrat, tu l'as signé avec Jésus. Tu ne l'as pas signé avec cette église-là. C'est avec Jésus. Pour être chrétien, je parle bien du contrat de chrétien. C'est avec Jésus que tu as signé le contrat. Et donc, quand Jésus te place quelque part, si tu dois quitter cet endroit, c'est Jésus encore qui doit te faire quitter. Que tu comprennes ça, que c'est le temps pour toi de quitter à partir de son acte, c'est bien, mais attends que ce soit Jésus qui te dise « c'est bon, tu peux t'en aller ». Ce n'est pas parce que tu as vu une faille dans l'église que tu dois t'en aller. à moins que ce soit des failles graves, hein, des erreurs graves, comme j'ai dit, magie, voilà, homosexualité, polygamie officielle, tout ça. Là, oui, mais quand c'est une marque d'imperfection humaine, même si ça se répète, c'est avec le Seigneur qu'il faut voir. Seigneur, là, ça se voit que cet homme-là ne sert pas tes intérêts clairement. Moi, je veux que tu me conduises ailleurs selon ta volonté. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Et en parlant de cette manière à Dieu, on montre par là que notre contrat, nous l'avons signé avec le Seigneur. Ce n'est pas avec quelqu'un. C'est là où le Seigneur veut que tu sois, que tu dois être. Mais ça ne veut pas dire que c'est un endroit parfait. Il y a des gens qui ont suivi le Seigneur en prison. La prison, ce n'est pas un bel endroit. Il y a des gens qui ont suivi le Seigneur dans un pays où il n'y a pas l'électricité. Ce n'est pas un bel endroit. Il y a des gens qui ont suivi le Seigneur et ils ont prêché, ils ont fait les choses, il n'y a pas eu de résultat. Est-ce que c'est beau ça? Ce n'est pas beau, humainement parlant. Mais ils ont suivi le Seigneur. Donc un chrétien doit avoir un rapport personnel avec le Seigneur. Ou c'est le Seigneur qui décide là où il doit être. Les gens décident comme ça sur leur avenir chrétien, sur leur vie chrétienne, sans en référer au Seigneur. Beaucoup ne sont pas convertis. Ils ont adhéré aux églises, mais ils n'ont pas eu vraiment de rapport personnel avec le Seigneur. Et on le voit pareil dans les mariages. Donc les gens cherchent chez l'autre ce qu'ils devaient trouver chez le Seigneur. Perfection totale, pas d'erreur. Toujours amour, joyeux, sourire. Mais oui, mais là, tu es en face d'un homme. Tu n'es pas en face du Seigneur Jésus. Tu es en face d'une femme. Tu n'es pas en face du Seigneur Jésus. Et c'est là que... Mais là, moi, je parle des gens, je parle des chrétiens. Hein, voilà. On se dit, est-ce qu'ils ont vraiment signé un contrat avec le Seigneur? Parce que là, avoir leur comportement, c'est comme s'ils cherchent le Seigneur dans... que l'autre, le vis-à-vis, soit le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Si le Seigneur déjà te satisfait, tu ne chercheras plus la satisfaction chez l'autre. Tu composeras avec l'autre parce que c'est la volonté de Dieu. Mais tu ne cherches pas la satisfaction, tu ne cherches pas l'imparabilité, la perfection, mais tu cherches à vivre la volonté de Dieu dans l'endroit où Dieu t'a placé. C'est tout, bien-aimé. Si on se comportait comme ça, bien-aimé, on aurait moins de problèmes dans les églises. La personne est là parce que le Seigneur le veut. Le jour où le Seigneur ne veut plus, la personne quitte. Voilà. On suit chacun le Seigneur. Et quand on est là où le Seigneur nous veut, eh bien, on obéit aux règles qui sont là. Et puis voilà, tant que ce n'est pas anti-biblique, on suit. Donc ça, c'est un problème d'aujourd'hui. Qui est le Seigneur pour toi? Si c'est lui ton berger, alors suis-le. Là où il te dépose, c'est là où tu dois être. Et s'il te demande de sortir, c'est avec lui qu'il faut voir tout ça. Il ne faut pas chercher les problèmes aux autres. Vois avec le Seigneur qui t'a amené à gauche ou à droite. Tout ça doit être redéfini pour qu'on vive vraiment le réveil comme il faut, la restauration comme il faut. Et le dernier point de la fois passée, c'était le fait que nous n'avons pas à attendre que tout soit là pour reconstruire. On reconstruit avec les moyens du bord. Le temple n'était pas encore construit. Ils ont construit quand même l'autel. Et ils ont commencé à faire des sacrifices sur l'autel de l'extérieur qui servait au sacrifice. Et ils ont commencé à faire le culte de l'Éternel avec les moyens du bord. Donc c'est ça le réveil. Donc on commence avec les moyens du bord à travailler, à deux ou à trois. On a pris conscience de la volonté de retourner. Mais on commence avec les moyens simples. Dieu s'occupera du reste plus tard. Et vraiment, pour finir, il y a cette pose de la première pierre pour la reconstruction du temple qui crée une émotion vive. Les gens sont dans une joie extraordinaire et d'autres pleurent. Et ça nous appelle à un regard prophétique. C'était qu'une pierre posée, mais eux, ils ont vu le temple qui va être reconstruit. Donc c'est aussi comme ça que les enfants de Dieu, parfois, ils se réjouissent. Juste une prophétie, juste un rappel d'un verset biblique, ça peut leur donner une joie extraordinaire, voyant que les choses vont de venir plus tard. Donc nous n'avons pas besoin forcément de voir, nous, les enfants de Dieu, mais une parole de Dieu, une parole prophétique peut nous mettre déjà dans l'ambiance de ce qui va se passer plus tard et nous pousser à nous réjouir. Donc nous continuons chapitre 4.
Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Mithredat, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Réhum, gouverneur, et Shimishai, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem. Réhum, gouverneur, Shimshai, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Din, d'Arpharsathèque, de Tarpel, d'Apharas, d'Erek, de Babylone, de Suse, de Déa, d'Élam, et les autres peuples que la grande et illustre Osnapar a transporté et établi dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs, partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verra dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que, si cette ville est rebâtie, et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi à Réhum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches. Et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi.
Voilà. Alors, pour des soucis de conformité historique, nos aînés pensent que du verset 6 au verset 23, c'est une histoire qui est venue après, parce que le roi Artaxerxès, d'une manière historique, il vient après tout ça. Voilà, ça a dû être une sorte de positionnement de copistes dans l'histoire de quelque chose qui est venu après, mais qui a la même logique, c'est-à-dire s'opposer à la reconstruction de la ville des enfants d'Israël. Donc c'est, puisque chronologiquement, Artaxerxès vient après. Et du coup, normalement, ça serait qu'au chapitre, à partir du verset 5, comme il dit, « Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. » Et puis normalement, verset 24, « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. » Voilà. C'est comme ça que l'histoire se tient d'une manière chronologique, historique. Voilà. Après, l'incursion de ce qu'on a lu du verset 6 au verset 23 n'est pas non plus d'une manière logique. Ça ne dérange pas non plus. Ça ne dérange pas parce que c'est la même idée. Donc, il y a une opposition à ce que les Juifs fassent la reconstruction. Donc, par rapport à la logique, par rapport au thème, ça marche. Mais par rapport à l'histoire, ça ne colle pas à cause de Artaxerxès. Donc, on pense que c'était quelque chose qui était venu après, mais qui a été mis là parce que la logique était la même. Voilà, nous revenons sur l'opposition à la reconstruction. Bien aimé, le retour à la normale ne se fait pas sans obstacles. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Vous savez, quand vous avez déjà perdu du terrain, c'est plus difficile de le reconquérir que lorsque vous étiez en train de conquérir. Conquérir, c'est parfois plus simple que reconquérir. Vous vous souvenez quand le Seigneur a dit, quand un esprit sort, il était un. Quand il est chassé, il va chercher cet autre esprit. Et quand il trouve la maison inoccupée, il la réoccupe. Donc ça fait huit. Huit à la place d'un esprit. Donc vous voyez comment ça devient plus difficile de reconquérir cette personne-là. Vous n'avez pas remarqué que lorsque quelqu'un qui avait l'habitude d'être parmi nous, enfants de Dieu, retourne dans le monde, combien ça devient très difficile après de le ramener à la simplicité de l'évangile, à l'application de la parole. Ça devient très difficile parce qu'il connaît. Il connaît, mais ça ne l'a pas empêché de retourner dans le péché. Donc quand on lui ramène la parole, il dit « mais je connais, mais oui, mais je connais, repends-toi ». Et ça devient plus difficile parce que les esprits qui le possèdent sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Et j'appuie pour dire « la reconquête n'est pas facile ». Parce que vous allez retourner dans un endroit où les gens se sont déjà installés. Il faut savoir, quand les Juifs reviennent, les gens sont déjà là. Ils sont installés là. Ils trouvent des gens. Il n'y a pas non plus une installation très forte, mais il y a des gens qui sont installés là, qui ont fait des mélanges avec les Juifs qui étaient restés là aussi. C'est beaucoup plus difficile que arriver sur un territoire, faire la guerre, nettoyer le territoire et s'installer. Ça, c'est beaucoup plus simple qu'arriver dans un endroit où vous n'avez pas le droit de nettoyer ethniquement l'endroit. Les gens, vous êtes obligés de les laisser là et vous, vous devez rebâtir ce que vous étiez avant qu'eux ne soient là. Ah, là, c'est compliqué. C'est l'état de l'Église aujourd'hui. Comment rebâtir alors que la place est occupée par des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans le faux? Donc, ça passe par le fait, en quelque sorte, d'accepter un conflit entre chrétiens, même si en réalité, on sait que ceux-là ne sont pas des vrais chrétiens, mais officiellement, ils le sont. Et pour certains vrais chrétiens, ces gens, les faux chrétiens sont aussi des chrétiens. Donc, ça fait compliqué après de faire asseoir la vérité dans ces conditions-là. Ça fait compliqué. Vous savez, en Afrique, il y a des gens qui sont prêts à veiller toute une nuit dans la prière, à parler de Dieu à tout moment, mais après aller faire la prostitution. Pour ces personnes-là, le christianisme se juge par des belles phrases sur Dieu et par des longues prières. Comment faire comprendre à quelqu'un comme ça qui n'est pas chrétien? Ça va prendre du temps. Ça prend du temps. Ramener la vérité, il y a beaucoup d'obstacles. Et dans ce passage d'Esdras, on nous montre trois obstacles que nous retrouverons en général dans l'œuvre de Dieu. Premier obstacle, on va relire Jacques Frel. Premier verset.
Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des arts à Don, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici.
Mais »
Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. »
Voilà. La première attaque est la plus grave aussi. Parce que dans cette affaire, cette attaque est venue la première. Mais dans d'autres affaires, l'attaque dont nous parlons aujourd'hui, maintenant là plutôt, c'est quelque chose qui vient peut-être en troisième position ou en deuxième position. Mais la première, c'est celle dont on parle, la première attaque, elle est la plus forte. C'est ce qu'on appelle les alliances. Les mauvaises alliances ou l'infiltration. Et l'infiltration, les deux là. Les mauvaises alliances et l'infiltration. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas vraiment juifs, des gens qui ne tiennent pas au temple comme les vrais juifs, qui viennent dire, nous voulons, puisque nous sommes dans l'endroit, nous partageons la même ville, nous voulons vous aider à construire votre temple. Quelle est la réaction des vrais juifs? Ah non, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Ils disent, c'est notre Dieu, c'est pas votre Dieu. Donc laissez-nous bâtir seul la maison de notre Dieu. C'est la même chose dans le christianisme. Quand on veut ramener les choses à la normale, il y a l'œcuménisme qui se pointe. Mais puisque nous parlons du même Dieu, nous voulons vous aider à faire les choses ensemble. Puisque nos cultes se ressemblent un peu, nous voulons faire les choses ensemble. C'est là que les vrais chrétiens doivent être fermes pour dire non, nous ne pouvons pas bâtir ensemble parce que votre vision de Dieu, selon nous, n'est pas biblique. Le courage qu'ont manifesté Zorobabel et Josué, nous devons manifester ce courage pour dire non. On ne peut pas. Vous savez, un jour, des bien-aimés qui ont l'habitude d'organiser des séminaires avec un homme de Dieu qui vient du Canada, ils ont voulu, à l'époque où on avait notre salle, ils ont voulu qu'on leur prête la salle et puis qu'ils organisent un séminaire. Moi, je dis, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais, comme je m'étais déjà informé avant sur leur séminaire, je dis, mais sauf que nous ne croyons pas qu'on doive mettre un prix pour un séminaire. Pour nous, ça doit être gratuit. Ah oui, mais il y a les billets des gens qui vont venir à prendre en charge. Moi, je dis, mais dans ce cas, il faut prier Dieu, que Dieu pourvoie. Mais nous, on ne peut jamais collaborer avec quelque chose qui soit payant, surtout dans notre salle à nous. Donc, ce n'est pas possible. Matthieu 18 dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La personne a semblé s'incliner à ce que je disais. Ah, mais oui, mais les repas, alors, on fait comment? Moi, je dis, mais les gens iront manger à l'extérieur et ils viendront au séminaire après. Puisque dans leur truc, ils organisent les repas en même temps, donc ils font payer pour tout ça. Moi, je dis non, ils iront manger à l'extérieur, ils viennent au séminaire après. Bien-aimé, quand on s'est séparé, la personne ne m'a plus rappelé. Hein. Ils ont fait ça ailleurs. Voilà, bien-aimé, on doit dire non. Nous, voilà ce que nous pensons de Dieu. Nous tenons à ça, à rester dans ce que nous pensons de Dieu, que ce soit, que c'est ça la vérité. On doit être ferme là-dessus. Il y a quelqu'un qui est venu une fois me dire, mais nous avons une réunion écuménique, lui-même étant un responsable évangélique, sa femme est catholique, était catholique, et lui, responsable évangélique, pasteur dans une église de Normandie, il me dit, je suis responsable, je suis évangélique, je suis responsable d'une plutôt fédération évangélique, et je ne vois pas de mal à ce qu'on puisse... Il n'a pas commencé par dire « je ne vois pas de mal », c'est parce que moi, je lui ai dit que pour moi, c'était pas bon. Il m'a dit « je ne vois pas de mal à ce qu'on puisse évangéliser ensemble en utilisant un lieu ». Le lieu, c'était quoi? C'est l'abbaye du Bec et Loin, vers Brionne. Moi, j'ai dit « mais c'est un lieu catholique ». Ah oui, mais moi, je ne vois pas de mal... par rapport à ça, moi je vois le mal, puisque le catholicisme, c'est il y a les idoles, il y a beaucoup de choses de Satan là-bas. Ah oui, mais vous savez, il y aura au moins 1000 personnes, quoi. Au moins il y a le public. Voilà, moi j'ai dit non, nous on ne bosse pas pour le public, on bosse pour élever le Seigneur dans la vérité. Donc on ne peut pas, bien aimé. Ils viendront dire on a les mêmes objectifs, on a les mêmes objectifs. Moi j'ai dit non, on n'a pas les mêmes objectifs. Nous notre objectif c'est de présenter Jésus tel que lui-même s'est présenté. Vous, votre objectif, c'est d'aider les gens. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas d'aider les gens, mais c'est de les sauver par Jésus seul et la Bible. Voilà, c'est ça la différence. Alors, ce n'est pas les mêmes objectifs. Et bien aimé, ça, c'est le piège le plus difficile. C'est-à-dire des gens, même qui viendront à l'église, qui vont travailler au milieu de nous, mais au fond d'eux, ils ne sont pas attachés aux objectifs de Christ, tel que nous nous concevons. Mais tant que nous serons fermes dans ce que nous pensons, ces gens-là vont craquer, un jour vont quitter. Voilà. En fait, leur but, c'est de nous grignoter, de nous ronger pas à pas. C'est là que nous aussi, on a des versets. Hein. Dieu dit à Ézéchiel, je te donne un front en diamant. Le diamant, tu ne peux pas le ronger, c'est lui qui va te ronger. Dieu nous a donné un front en diamant. Eh bien, Dieu dit, mais ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux d'aller vers toi. Donc, ce n'est pas à la vérité de céder, c'est au mensonge de céder. C'est au compromis de céder, ce n'est pas la vérité. Et donc, voilà. Et à force que vous ne cédez pas, on finira par vous taxer d'extrémiste, de ceci. Et la personne quitte l'église parce qu'elle n'a pas pu vous ronger. Elle n'a pas pu. Donc, il faut rester ferme. Les enfants d'Israël ont dit, non, nous construisons seuls. Et il faut en arriver à ça, dire, ben non. Si vous trouvez que la manière dont nous présentons l'évangile, qui juste en lisant la Bible, ça ne vous convient pas, nous bâtirons seuls. Voilà. On bâtit avec les gens, comme il est écrit, deux personnes ne marchent pas ensemble sans se concerter. Voilà, donc on se concerte, on trouve que voilà, on va suivre telle ligne et on fonctionne. Voilà, c'est très très important de faire attention parce que l'infiltration et les mauvaises alliances, c'est la chose la plus douce et dangereuse qui peut nous arriver. La mauvaise alliance vient dans la douceur. L'infiltration se passe dans la douceur. La personne même est volontaire, est active, mais elle n'a pas les mêmes objectifs. Si nous, on regarde qu'à l'aide que la personne apporte, c'est nous qui allons subir un glissement qui va nous emmener à notre perte. Nous devons regarder au fond de la personne. Qui est la personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Il est vrai que certains ne manifestent pas tout dès le départ, mais nous, tant qu'on garde notre position, les gens finiront par manifester qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Quelqu'un peut faire 12 ans, 10 ans dans la patience qu'un jour, il va prêcher. Son objectif, ce n'est en même temps que quelque part, il y a un petit objectif que les gens soient sauvés, mais son objectif à lui, au fond, c'est qu'il prêche. Tant que il prêche, vous n'aurez pas de problème. Mais le jour où les circonstances font que la personne ne prêche plus, c'est là que vous voyez la vraie face, le vrai objectif de la personne. Ou alors, après 10 ans de patience, on ne l'a toujours pas laissé prêcher, vous voyez, la personne commence à créer des problèmes. Mais quand vous suivez jusqu'au bout des problèmes, vous voyez, mais il n'y a aucun problème, mais en réalité, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Le Jésus que vous défendez ne plaît pas à cette personne parce que la personne cherche son succès aussi en même temps. C'est ça la réalité. Il y en a aussi qui viennent chercher le mariage, mais ils vont parler de Jésus, Jésus, Jésus. 3 ans après, il n'y a pas de mariage, ils craquent. Voilà. C'est ça. Il faut être prêt à demeurer dans la même position. Voilà la manière dont on va construire l'Église. C'est la manière que les Actes des Apôtres nous a laissé. C'est ça qu'on va suivre. Les Actes des Apôtres nous ont laissé ça. Nous suivons les mêmes choses. C'est très, très important, bien-aimé. Et on commence par ça. Bon, mais c'est aussi la chose la plus difficile. Mauvaise alliance et infiltration. Et puis, deuxième obstacle, c'est quoi? C'est verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Voilà. La deuxième attaque, c'est une intimidation de face. C'est-à-dire les calomnies, les moqueries, les coups bas. Mais ce genre d'intimidation, c'est facilement négociable parce que c'est comme si tu avais un ennemi extérieur. Alors que le premier obstacle, l'ennemi est intérieur ou voisin est à côté. C'est pas la même, c'est plus difficile. Mais calomnie, coup bas, injure, fausse rumeur, c'est quand même à l'extérieur. Et même si ça nous atteint, mais c'est à l'extérieur. C'est un peu plus simple à gérer. Mais ça a leur impact, puisque ça peut décourager certains parmi nous. Ça a leur impact. Mais c'est quand même des choses d'extérieur qui sont lancées contre nous. Où on peut avoir un mari non converti ou une femme non convertie qui t'attaque. C'est quand même extérieur, c'est pas quelque chose entre nous, les enfants de Dieu qui construisons entre nous. Non, c'est pas une mauvaise alliance, dans la construction avec Dieu, mais c'est une alliance de mariage, c'est pas la même chose. Donc, on voit quand même l'ennemi de l'extérieur. Alors que l'infiltration, c'est un peu plus dur et les mauvaises alliances, ça vient en douceur. Là, ça vient déjà en négatif et du coup, on sait que c'est une attaque. Voilà. Et troisième genre d'obstacle, c'est qu'on finit par une persécution étatique. Donc, on utilise maintenant le pouvoir en place pour attaquer. Des plaintes. Vous allez voir, dans un quartier, les gens font une pétition contre l'Église. On porte plainte. Des plaintes, on commence à vous chercher, à faire des contrôles fiscaux. Des plaintes, on vote, non pas des plaintes, mais au Parlement, on fait passer des lois qui vont transformer votre Église en quelque chose d'illégal. Donc ça monte en dimension, ça arrive à ce niveau-là. Et là, on le voit au verset 5, « Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. » Donc, ils utilisaient maintenant les conseillers au pouvoir pour freiner l'entreprise. Donc, ils sont montés plus haut jusqu'aux gens du pouvoir. Et il y a cette parenthèse du 6 au 23 qui est dans la même logique. Ils écrivent au roi Artaxerxès pour leur dire, mais ces Juifs, c'est des gens qui sont toujours rebelles, c'est des gens qui compliquent la situation au roi. Donc, vous ne pouvez pas les laisser construire leur maison. Ils vont entrer dans la rébellion. Et c'est là que le roi souscrit à leur demande, même si ça ne nous concerne pas, mais comme c'est la même logique, on le dit quand même. Et finalement, avec l'histoire des conseillers, tout ça, on en arrive au verset 23. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Donc ça devient étatique. D'ailleurs, c'est ce que nous allons vivre dans la fin des temps. Persécution étatique. C'est ce que nos frères et sœurs vivent en Arabie Saoudite, au Maroc, en Chine, en Érythrée, au Bangladesh, au Pakistan, en Corée du Nord, en Indonésie. Ils vivent une persécution étatique où les activités en Turquie, les activités deviennent chrétiennes deviennent comme illégales parce que les gens au pouvoir s'y opposent. Voilà, donc le diable amène le niveau au niveau supérieur, l'empêchement pour le retour à la vie normale de l'Église. Et dans les Actes des apôtres, c'est ce qu'ils avaient vécu. Au début, c'était une persécution locale. Et ensuite, c'est devenu une persécution étatique. Et pour finir, eux, ils ont subi l'inverse. C'est-à-dire, ce que nous, on a vu en premier, ils ont subi ça en troisième, les mauvaises alliances et l'infiltration. Qui ont commencé du temps des apôtres, qu'ils ont combattu par les lettres, hein, que les lettres, toutes les lettres que nous lisons, c'est des lettres qui combattent les mauvaises alliances et les infiltrations. Dans toutes ces lettres, vous voyez que ce soit Pierre, Paul, Jean, ils parlent des faux serviteurs disséminés au milieu des enfants de Dieu. Infiltration et mauvaise alliance. Ils ont fait les lettres pour dénoncer les fausses doctrines qu'on infiltrait, pour ramener les gens à la vraie doctrine, à la chose de départ. Et ça, eux, ils ont subi ça en troisième position parce que c'est la chose la plus difficile à vaincre. Infiltration et mauvaise alliance. Il faut être très prudent là-dessus. Quelqu'un qui vient t'aider, et puis ensuite, il veut t'amener à autre chose. Voilà. Ça, c'est les mauvaises alliances et infiltration. Dans les Actes des apôtres, ils ont subi ça en troisième position. Et là, on retrouve ça en première position. Et la persécution étatique dans les Actes des apôtres, c'était en deuxième position. Et en première position, c'était la persécution locale, les coups bas, les calomnies, les rumeurs, ça c'était la persécution locale. Et le chrétien qui veut ramener les choses à la normale doit se préparer à tout ça. Il doit comprendre qu'il y aura des infiltrations, il y aura des mauvaises alliances pour t'empêcher de revenir à la vérité qu'on retrouve dans les Actes des apôtres, à la vérité qu'on retrouve dans les évangiles, dans toute la Bible, bref. Pour revenir à la parole, donc, il y aura tous ces obstacles. Il y aura même, vous savez, les surenchéristes. C'est-à-dire que toi, tu veux ramener les choses à Jésus, eux, ils veulent ramener les choses au judaïsme. Donc, ils veulent aller encore plus loin en disant que c'est le vrai retour. Oh, le vrai retour, c'est revenir à Jésus. C'est ça, l'infiltration. C'est-à-dire que parmi nous, il va y avoir des gens qui disent, mais il faut qu'on retourne au sabbat. Mais non, nous, on veut retourner aux Actes des apôtres. L'Église commence dans les Actes des apôtres. Donc, il y a des gens qui vont surenchérir, ils vont vouloir exagérer le retour. Pour dire, non, il faut qu'on aille encore dans tel... Il faut qu'on se lave les pieds. Non. On veut retourner dans les Actes des apôtres, dans les actes des apôtres, on ne se lave pas les pieds avant de prier Jésus. On veut retourner à ça. C'est ça notre Jérusalem, c'est ça notre temple. Retourner aux actes des apôtres. Voilà, retourner aux évangiles. C'est ça. Et donc, les infiltrés, ce n'est pas seulement des gens qui veulent te corrompre. C'est des gens aussi qui peuvent t'amener dans l'extrémisme, à surenchérir les choses. Donc, faire comme si tu étais plus pur que Jésus lui-même. Ils vont vouloir ramener à ça. Comme une fois, on se retrouvait dans un endroit où les gens disent, ah non, on doit revenir à la Bible. Donc, plus personne n'enseigne, on est là, celui qui reçoit l'inspiration, il nous parle. Mais c'est écrit où? Donc, ils ont pris une partie de 1 Corinthiens pour dire c'est comme ça que le culte doit se faire. C'est faux. Dans le même livre de Corinthiens, on voit plusieurs fois Paul enseigner. Dans Actes des Apôtres, on voit Paul enseigner de la nuit au matin, là où le Éticus était tombé et mort. Donc, c'est des gens qui vont vouloir exagérer à leur manière. C'est des infiltrés aussi, c'est des mauvaises alliances. Ils vont vouloir nous écarter, on veut revenir à la normale, et ils vont vouloir rajouter des choses pour être encore plus normal que Jésus lui-même, que les apôtres eux-mêmes. Il n'y a pas plus normal que les apôtres, parce que c'est eux les débuts. Et vous savez, un jour, j'étais dans une réunion où, bon, dans cette idée-là que tout le monde intervienne, un garçon, un enfant de 7 ans, je crois, de 8 ans, il a pris l'épître de Pierre. Ah, bien-aimé, il nous a frappé ça du début à la fin. Et bien-aimé, à la fin, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de message de Dieu. Un tel a lu telle partie, un tel autre a parlé de telle chose. Donc 5 personnes sont intervenues. On en sort là sans rien du tout. Donc et un enfant de 8 ans qui prend l'épître de Pierre, qui nous lit du début à la fin, alors qu'il y a plusieurs idées dans cette épître. Donc c'était du non-sens cette réunion-là, juste pour plaire au fait qu'il faut que chacun intervienne. Ça, c'est aussi de l'infiltration. Donc il y a cette partie d'infiltration où les gens vont vouloir rajouter des choses pour dire que c'est eux qui retournent vraiment la Bible, c'est faux. Donc nous devons imiter comme on voit dans les actes des apôtres et dans les évangiles. Voilà les 3 formes d'obstacles que nous aurons à rencontrer dans la recherche du retour à normal. Oui, Jacques-Patrick?
Oui, il y a une question WhatsApp, c'est concernant le verset 7. Et du temps d'Artaxarex, Bicham, Mithridate, Tabil et le reste de leurs collègues écrivirent à Astarès, roi de Perse. La lettre fut transcrite. Donc, la personne demande, est-ce que ça veut dire que la lettre a été écrite à Darius en réalité?
Non, ça je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Artaxerxès, chronologiquement, ça ne marche pas avec ce qu'on lit. Donc, puisque au chapitre 5, on va voir une lettre écrite à Darius. Ça va être, pour Darius, on va voir ça au chapitre 5. Nos aînés, après avoir examiné toute la question, ils ont conclu que c'était une parenthèse qui concernait un autre temps. Voilà.
Et question YouTube. Dieu ne permet-il pas les persécutions afin de faire déjà un tri parmi les chrétiens? À savoir, va-t-on continuer à dire que l'on aime le Seigneur dans les persécutions?
Ah oui, bien sûr. Dieu permet toujours les persécutions pour purifier son Église.
Il y a une autre question WhatsApp, mais bon, qui ne concerne pas le sujet, okay, que je poserai à la fin.
Donc. Ok, voilà. Donc nous lisons juste une partie du chapitre 5. Justement, il y a la lettre qu'on écrit à Darius.
Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shéatiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ?» Ils leur dirent encore, « Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ?» Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet.
Voilà, on peut s'arrêter là, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va exceptionnellement finir tôt à cause du couvre-feu. Et on s'arrête là pour soulever la puissance des prophètes, la puissance de la parole prophétique. C'est-à-dire que les travaux sont paralysés par la force des voisins, la force des peuples qui étaient là, qu'ils ont trouvé à Jérusalem, et paralysés aussi par les manœuvres des conseillers au pouvoir. Et là, Dieu envoie Agée et Zacharie, le prophète. Et vous connaissez le fameux verset, non ? Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la force, ni la puissance. Vous voyez, nous sommes dans les livres d'Esdras, mais il s'agit de cet événement-là de Zacharie 4, 6. Donc, Dieu leur dit, allez dire à Josué et à Zorobabel. Donc, Zacharie 4, 6 commence comme ça. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ah, j'aime beaucoup ce verset, ni la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Donc, ne vous inquiétez pas, allez, on y va, commençons à reconstruire. Voilà. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait des permissions, qu'il y ait des lettres. Ils ont dit, les prophètes étaient là et c'est eux qui servaient comme de force pour les gens de reconstruire le temple. Et les gens sont venus me dire, mais qui vous a donné la permission? On ne leur a pas répondu. Ils ont dit, l'œil de l'Éternel veillait sur tout cela. Et c'est le prophète qui parlait de la part de Dieu pour dire, dites à Zorobabel de continuer. Hein, Zorobabel a commencé, il finira. Lisez cette prophétie-là, c'est extraordinaire dans Zacharie 4. Voilà, donc c'est prophète Agée, prophète Zacharie, que Dieu utilise pour conscientiser les gens. Et Agée commence comme ça. Vous êtes en train de vivre chez vous tranquillement, parce que les gens en ont profité, vous savez, comme certains, pendant le confinement, eux aussi, ils ont fait un confinement avec Dieu. Donc, ils se sont isolés de Dieu. Donc, il y en a qui en ont profité. Pendant que les travaux se sont arrêtés, ils n'étaient plus dans le même entrain pour reconstruire le temple. Dieu envoie Agée pour leur dire, c'est ça que vous choisissez, de bâtir vos maisons, de les lambrisser, et vous négligez mon œuvre. Et certains chrétiens profitent du désordre qu'il y a dans l'église visible pour rester chez eux, dire qu'eux, ils sont purs. Toutes les églises sont mauvaises, eux, ils sont purs. Ils restent chez eux dans la paresse, en ne faisant rien du tout, en ressemblant aux prêtres dans le couvent. Voilà. Non, bien-aimés, on doit se lever et rebâtir la maison de Dieu en allant au contact des autres, en allant dans l'étude biblique pour étudier la parole, en priant Dieu que Dieu suscite des serviteurs. Voilà, on doit travailler. On va pas être dans un couvent chez nous en taxant toutes les églises de force, tous les serviteurs de force. Sauf toi seulement. Mais si c'est toi, sauve-nous alors. Donc, il faut travailler. Dieu te donnera deux ou trois personnes avec qui tu peux te rassembler pour construire. Tu peux pas être tout seul, penser toi seul avoir raison dans le monde entier. Non, il y a encore quelques personnes. Dieu a dit à Élie, il y a 7000 personnes. Tu n'es pas seul. Élie se croyait seul. Dieu lui dit, tu n'es pas seul. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Cherche-les. Rassemble-toi avec eux. Il y a forcément des vrais chrétiens quelque part. Donc, rassemble-toi avec ces chrétiens-là. On ne peut pas rester seul, là, dire, ben, tout est gâché. Bon, moi aussi, je reste chez moi. Mais tu ne fais rien. Non, 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 non. Et Agée a dit aux gens, réveillez-vous, allez construire la maison du Seigneur. Zacharie a dit, Zorobabel finira cette maison, ça marchera. Le Seigneur est avec vous. Voilà, c'est comme ça que la construction de la maison de Dieu est relancée. L'Esprit Saint vient, quand nous on se fatigue, il vient nous réveiller. Allez, vas-y. Vas-y, Dieu, ce qu'il a promis avant, il va l'accomplir. Il a commencé, il finira. Amen. C'est ça l'esprit des prophètes, c'est ça l'utilité des prophètes. Nous relancer dans la vision divine par l'esprit de Dieu. Oui.
Question YouTube. Comment retourner aux Actes des apôtres dans une assemblée de plus de 50 personnes? Car lorsqu'on lit dans les Actes, ils mirent tout en commun.
Je ne vois pas le lien avec... Dans les Actes, c'était pire, ils étaient plus de 3000.
Oui, donc la personne pose la question, je crois que c'est concernant, comme on dit, nous, l'Église commence aux Actes des apôtres.
Oui, mais 50 personnes, c'est moins, c'est plus petit que 3000, parce que quand le jour où Pierre a prêché, il y avait 3000 convertis, et il faut savoir que ça continuera à se rajouter. Non, quand il dit « ils mirent tout en commun », donc c'est-à-dire que chacun ne considérait plus ses biens comme étant en lui. Donc on peut lui prêter une voiture, tu peux prêter ta voiture à quelqu'un, c'est ça mettre tout en commun. Tu peux nourrir d'autres personnes, voilà, c'est ça mise en commun, c'est pas habiter au même endroit. Voilà, c'est considérer que ses biens ne sont plus à soi, tes biens ne sont plus à toi, c'est le bien de Dieu au service de sa famille. Voilà, c'est cela.
Toujours sur YouTube, le chrétien doit-il demeurer dans une assemblée où il est permis à la femme d'enseigner?
Moi, comme je venais de dire là, c'est pas normal que les femmes enseignent ou prêchent ou soient des pasteurs, mais au moment où on s'en rend compte, on doit laisser Dieu nous sortir de l'endroit. On ne doit pas faire les choses avec brutalité. Ce n'est pas un péché du genre le pasteur est devenu homosexuel ou bien qu'il a pris des fétiches ou bien il a pris une deuxième femme. Non, voilà. Donc c'est tant que c'est des choses comme ça qui parfois se sont infiltrées dans l'Église pendant plus d'un siècle et que on doit pas chercher à les retirer à la sauvage. Donc il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire et quitter tranquillement et faire les choses bien.
Question WhatsApp. En période de réveil, on entre dans le verset « Obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes ».
Amen. Et puis la question hors sujet, puisqu'on finit là. Effectivement, puisque dans le réveil, Dieu nous donnera des instructions qui paraîtront exagérées au regard humain, puisque nous retournons vraiment à la pureté du contact entre l'homme et Dieu. Oui.
L'entièreté des 40 ans de paix sous le règne de Salomon était-elle la volonté de Dieu ou plutôt due au refus de Salomon de combattre les nations païennes dont il s'est compromis avec les dieux?
Non, c'était la volonté de Dieu. Après, l'homme peut mettre toujours sa propre intelligence, mais le nom de Salomon, c'est paix. Ça veut dire la paix. Donc, Salomon est une émanation d'une prophétie que David est un guerrier. Celui qui le succède va être quelqu'un de paix. Voilà, c'était ça la volonté de Dieu, mais c'est ça aussi l'erreur. Donc, c'est pas parce que Dieu va mettre la paix que toi, tu dois construire des paix humaines. Voilà.
Si tu es instituteur chrétien, la direction de l'école, en accord avec les parents, annonce que ton élève se considère désormais soit comme de l'autre sexe, soit neutre, soit des deux, et adopter un nom de l'autre sexe, et que toute l'école et la classe doivent utiliser ce nouveau nom et l'accompagner dans sa transition. L'instituteur que tu es est censé encourager la classe à accepter l'élève. Que fais-tu, puisque c'est un droit constitutionnel en Occident? Vas-tu aussi utiliser ce nouveau nom?
Je n'utilise que le nom que je vois dans les papiers de la personne. Si les papiers de la personne changent, on utilise le nom qu'il y a dans les papiers de la personne. Maintenant, tant que les papiers n'ont pas changé, que c'est un conseil de classe, dans un conseil de classe qu'on m'a dit de faire ça, je ne fais pas.
Est-ce qu'il faut encourager la classe à accepter l'élève tel et à accepter cette transition?
Non, on ne commente pas tout ça. Donc, on ne commente pas tout ça. Voilà. Voilà, donc bien aimé, on s'arrête sur le fait que les prophètes relancent la construction. Donc, malgré la difficulté, hein, ça paraît, c'est cuit, comme on dit en français, c'est cuit. L'État s'en est mêlé, les conseillers s'en ont mêlé, vous arrêtez les travaux. Les chrétiens aussi, enfin les juifs de l'époque, ils se sont fatigués aussi. Ils ont commencé à embellir leur maison, à lambrisser leur maison, à être bien chacun chez lui. Dieu envoie Agé pour leur dire arrêtez avec ça. Lisez la prophétie d'Agé, c'est très important. Arrêtez avec ça, allez bâtir la maison du Seigneur. Allez restaurer l'église. Pour nous, c'est aller restaurer l'église du Seigneur. Les gens qui sont tranquilles, qui bâtissent maintenant leur famille, leur maison, Dieu leur dit, ça suffit comme ça. Allez rebâtir ma maison. Il faut que l'église sauve l'humanité. Réveillez-vous. Rebâtissez l'église pour qu'elle fasse son travail. Voilà. Et il dit à Zacharie, dis-leur, ça marchera. Je suis avec eux. Voilà. Donc chaque prophète avec son message pour que la chose prenne place, comment dire, continue à agir. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, il nous parle encore. Réveillez-vous, allez bâtir l'église du Seigneur pour qu'elle fasse le travail de sauver l'humanité entière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons te dire merci encore pour cette étude qui nous a montré tous les obstacles que nous allons rencontrer dans la reconstruction, dans le retour à la normale. Aide-nous, Seigneur, à être fermes dans notre position sur la vérité, à filtrer. Et peut-être par erreur, on aurait fait certaines mauvaises alliances, que ces gens-là se fatiguent et fuient. Comme il est écrit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints, Seigneur. Manifeste-toi et donne-nous la force de résister aux rumeurs, aux calomnies, aux coups bas extérieurs, locaux, Seigneur, que nous résistions à cela avec un front en diamant au nom de Jésus-Christ et que nous résistions même à la persécution étatique. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, pour la victoire que tu vas nous donner à travers ta parole et tes enfants qui nous réveillent au nom de Jésus. Amen.